Bonjour à tous, je m'appelle Étienne, je suis le mari de Anne, qui est la sœur de Ruth, qui est l'épouse de Josué. Je suis le gendre de Jean et Béatrice, qui sont ici, qui sont les parents de Ruth, et voilà, vous avez compris. On habite près de Lille, Armentières, et on fait partie d'une église à Lille, de l'Union APC, si vous connaissez. Voilà, je suis un des anciens. Ben, on est une des nombreuses églises qui a le même défi que vous, c'est rester fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour, continuer à enseigner la parole de Dieu, continuer à être des témoins, à rayonner, continuer à se servir les uns les autres. Voilà, des sujets de prière assez communs, mais c'est nos sujets de prière. Donc si vous voulez prier pour l'église à Lille, et puis sachant que nous avons récupéré une perle de votre part, qui s'appelle Eugénie, voilà, nous la pressions, Eugénie qui réintègre notre église à partir de maintenant, puisque vous qui la connaissez, ceux qui la connaissent, savent qu'elle était 2 ans à Lille, et puis 1 an à Dunkerque, et elle revient vers Lille. Voilà, je ne sais pas si vous avez le bonjour de sa part, elle ne m'a pas dit. Là, actuellement, dans notre église, on fait une petite série sur 1 Pierre dans ce mois de juillet. Je ne sais pas si vous avez lu 1 Pierre dernièrement. En fait, il y a un sujet qui revient, c'est presque pas possible de passer à côté. Il y a un sujet qui revient, c'est la souffrance. Donc c'est tellement une lettre enrichissante, bienfaisante au niveau des fondements, mais il y a ce thème-là de la souffrance, où on aimerait peut-être passer à côté. On a voulu découper cette série en 4 axes, et vous voyez ce mot souffrance qui revient. La vie chrétienne, un cadeau. Est-ce que c'est vraiment un cadeau dans le contexte? Et on va le voir, leur contexte. Oui, souffrance, il y a souffrance, mais il y a appartenance. Oui, il y a souffrance, mais à cause de cette appartenance, il y a cette obéissance, c'est très lié. Et après, dans Pierre, donc cette lettre de Pierre, ce qui revient beaucoup aussi, mais c'est l'espérance. Au jour jusqu'au jour où il apparaîtra, où la gloire, ça revient tout le temps. Et puis il y a, à cause de cette espérance, la persévérance. Moi, j'aimerais vous partager ce premier message: la souffrance, mais l'appartenance. Alors Pierre, déjà, qui c'est Pierre? Alors certainement beaucoup le savent, mais j'aimerais quand même le répéter. Pierre est un des 12 qui a suivi Jésus, un des 12 disciples qui a connu Jésus, qui a connu ses souffrances, qui l'a suivi, qui l'a vu ressusciter et qui a été choisi en tant qu'apôtre. Première épître de Pierre, première lettre de Pierre. Voilà, donc c'est un peu plus simple. Et on va tenter maintenant de prendre une photo des destinataires de Pierre. Quand Pierre écrit, c'est certainement pas sa première lettre, mais c'est la première lettre qu'on a là dans la Bible. Et cette photo, on va la prendre à partir de 4 versets. Alors le premier, c'est l'introduction. Et on lit dans 1 Pierre verset 1: « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père. » Et je vais m'arrêter là pour l'instant. De Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai dit. Apôtre de Jésus-Christ, donc l'un des 12. Et il écrit à des chrétiens qui se trouvent, peut mettre la carte, il écrit à plusieurs régions qui se trouvent dans l'actuelle Turquie, donc en Asie mineure. On disait avant Asie mineure, c'est l'actuelle Turquie. Et si vous voyez un peu les régions, là vous voyez, mais c'est pas très important, Bithynie, Cappadoce, etc. Vous voyez un petit peu les régions. Entre parenthèses, quelque chose qui m'a encouragé en lisant, c'est juste une parenthèse, je la ferme très vite, c'est que si vous lisez dans Actes, vous avez peut-être en tête, mais qui est celui, l'équipe qui a évangélisé dans ces régions-là? C'est pas Pierre, c'est Paul. Mais quand on lit dans Actes de mémoire 16, 17, aux alentours de, ou peut-être un petit peu avant. Ouais, ça doit être ça, 16, 17. Est-ce que l'évangile a percé dans ces régions? Eh bien non. Et on voit même que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Jésus a fermé la porte dans ces régions-là pour aller plus loin, pour aller en Europe, donc à partir de Philippe, etc. Et ce qui est encourageant ici, c'est que Pierre, il écrit à des chrétiens. Ça veut dire que l'histoire de ce qu'on a, de ce qu'on lit dans Actes, n'était pas terminée. Il y a eu le plan B, l'évangélisation a continué puisqu'il y avait des chrétiens. Je ferme la parenthèse. À ceux qui sont étrangers et dispersés, qu'est-ce que cela veut dire? Vous qui n'êtes pas vraiment chez vous, vous qui êtes éclatés en petits groupes, vous qui êtes plutôt en situation de faiblesse. Alors je continue le verset 6, donc deuxième verset qui nous permet de prendre une photo. C'est ce qui fait votre joie, donc le fondement, l'introduction. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Alors, ici, on apprend que ces chrétiens, sont attristés, sont éprouvés. Et par quel genre de souffrance? Eh bien, dans la lettre, on voit, ils sont calomniés. Là où vous calomniez, chapitre 2, verset 12. Injuriés. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte qu'il va leur dire. Ils subissent de mauvais traitements ou le rejet. On va lire après. Aussi trouve-t-il étrange que vous précipitez plus aux mêmes choses. Un peu ce rejet. La lettre, comme elle date des débuts des années 60, elle n'est certainement pas écrite dans la période où c'est le pire. Là où les chrétiens sont arrêtés systématiquement, là où Néron, l'empereur Néron va faire brûler des chrétiens, etc. C'est pas le summum de la souffrance, mais c'est un contexte de souffrance qui est dû au rejet, à un contexte d'oppression. Et du coup, là, on peut cibler, mais de quelle souffrance il s'agit dans cette lettre? Cette souffrance dont Pierre parle, presque à chaque page, c'est cette souffrance du rejet, de la calomnie, de la persécution. C'est cette souffrance dont il parle. Alors, nous, nos souffrances, elles sont plus larges, et eux aussi. Souffrance de la maladie, souffrance de la vie de tous les jours, les épreuves, etc. Il y a d'autres souffrances que celles-ci, mais Pierre, là, parle de la souffrance du rejet et de la souffrance de la persécution. Alors, certainement, les principes qu'il propose, les principes qu'il met en avant, sont aussi applicables pour certains aux autres souffrances. Je continue la photo, qui dit, chapitre 4, verset 4, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Aussi trouve-t-il étrange. » Eh oui, étrange. Ces chrétiens ne font pas comme tout le monde. Ils ne font plus comme tout le monde. Ils ont changé. Et c'est suspect ou c'est même pas tolérable. On y reviendra. Je continue la photo. Chapitre 4, verset 12. Ne soyez pas surpris de la fournaise. Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme si vous arrivez quelque chose d'étrange. Ne soyez pas surpris de la fournaise. Ouais, il y avait de quoi à être surpris, à se questionner, comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. Et si c'est tellement étrange, peut-être qu'il faut changer de situation, parce que personne n'aime rester dans une situation qui est tellement étrange. Alors, pour résumer la photo de ces chrétiens, ils habitent bien chez eux, ils sont bien habitants de leur région, mais ce sont des étrangers. Ils sont jugés comme étrangers. Et ils sont réellement accusés, insultés, malmenés. Et ces chrétiens peuvent trouver ça étrange. Des étrangers qui peuvent trouver ça étrange. Et les autres peuvent trouver ça étrange. Et tellement étrange et inconfortable que la question se pose. Mais est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que la vie chrétienne est vraiment un cadeau? Est-ce que ça c'est un cadeau? Et Pierre va essayer de leur montrer en quoi appartenir à Dieu et appartenir au peuple de Dieu change vraiment la donne. Alors, et nous, par rapport à cette photo-là, où est-ce qu'on en est? Ben, côté dispersion, côté étranger dispersion, ben, oui. Alors, on est hyper connecté, on a les rassemblements, mais quand vous trouvez avec un deuxième ou un troisième collègue au travail, vous êtes content. C'est assez rare. Donc, côté dispersion, il y a quand même une certaine dispersion. Et dans certaines régions, beaucoup plus. Vous le savez, je pense. Côté, côté étranger, quand on a dit, bah, ils trouvent ça étrange, mais alors que nous, honnêtement, on a tendance à faire tout pour que ils ne trouvent pas ça étrange, pour que ils n'aient pas trop de suspicions sur notre vie. Et puis quand Pierre dit, ne soyez pas surpris, ne vous étonnez pas, de la même façon, bah, soyez honnêtes, alors que nous, souvent, on fait tout pour que nous-mêmes, on ne soit pas surpris, pour qu'on ne trouve pas ça étrange. Et une des raisons qui nous fait redouter, alors peut-être la douleur physique, c'est beau, dans notre contexte, c'est très rare, mais c'est la honte d'être moqué, le petit sourire au coin, dire bah voilà t'es t'es un gentil toi, hein. En fait, on vous fait parfois comprendre, mais vous êtes pas de notre monde, vous êtes pas de chez nous. Ici, tout le monde comprend, mais toi, tu ne comprends pas. Tu peux pas nous comprendre parce que t'es pas, voilà, on peut pas discuter de avec toi de ce genre de choses. Et rarement, on a un mépris frontal, on n'entendra pas « Je vais te faire du mal parce que tu appartiens à Christ ». C'est plus rare. C'est souvent plus subtil. Non, souvent, l'intention, c'est, bah, tu ne comprends pas vraiment. Tu es d'une autre planète. Et cette idée-là, même cette idée-là, qui est bien moindre que ce que vivaient ces chrétiens-là, mais cette idée-là nous paraît insupportable, nous paraît étrange, nous paraît, et souvent on fait tout pour éviter ce genre de situation. Pierre veut encourager les chrétiens, il veut fortifier les chrétiens pour qu'ils comprennent que leur appartenance, eh bien, change vraiment la donne, pour que cette appartenance leur donne du courage. Et je vais vous présenter deux points concernant notre appartenance. La première, eh bien, c'est que justement, c'est on n'appartient pas à personne. On appartient au Seigneur et à son peuple. Et cette appartenance nous donne du courage. Le deuxième point, bah, c'est un petit peu l'inverse. C'est, oui, vous appartenez, et parce que vous appartenez, eh bien, vous allez souffrir. Il y a un lien cause à effet, il y a un lien d'attachement qui fait que parce que vous appartenez à Christ, et si vous avez bien fait attention, on l'a chanté juste avant, te connaître, il n'y a rien de meilleur, et la communion avec la souffrance. Et rarement on le soulève, n'est-ce pas? C'est dans Philippiens 3, c'est dit comme ça, texto, le chant a repris, Philippiens 3. Voilà, parce que nous appartenons, nous allons souffrir, et il y a de la joie à souffrir. Donc ça, c'est les deux points. Le premier point, donc nous appartenons au peuple de Dieu, donc nous pouvons souffrir, ou autrement dit, vous qui souffrez, ou qui avez même vous savez, cette honte-là, cette honte dont on voudrait se dégager, mais rappelez-vous, vous faites partie du peuple de Dieu. Et j'ai choisi de reprendre les quatre versets-là, ici, et juste les remettre un petit peu plus dans leur contexte. Même si vous avez compris, là, on est sur 1 Pierre en total, donc on verra pas le contexte global. Alors, chapitre 1, verset 1 et suivant. Donc, jusqu'au verset 6. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis, conformément à la préscience de Dieu, le Père est conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Rien que dans ce passage, il y a déjà les quatre axes qui étaient sur l'image avant. Plusieurs mots-clés, élu ou choisi, la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, le Père. Conduit à la sainteté par l'Esprit, le Saint-Esprit, afin de devenir obéissant. Ça, c'était le deuxième message et c'était fort de voir que, tiens, un des objectifs de tout ça, de tout le plan de Dieu, c'est nous rendre obéissants. L'héritage, gardé par la puissance de Dieu, réservé. Sans vouloir rentrer dans le détail de l'élection, je ne suis pas théologien, de loin pas, et on voit que Dieu ne fait pas les choses au hasard. On voit que Dieu prépare avec soin, que l'intégration dans son peuple est préparée à l'avance, qu'elle est soignée, que le Père, dans sa grande bonté, a fait de nous des héritiers. C'est fort, c'est tellement fort. D'ennemi à héritier. Quelle appartenance. Le Saint-Esprit qui conduit à la sainteté. Dans 1 Pierre 2, il dit, il rappelle ce passage de Lévitique 19, « Mais vous serez saints, parce que je suis saint. » Et le Saint-Esprit, en fait, il réalise ça. Il conduit à la sainteté et il amène à l'obéissance. Et il amène à nous faire connaître Jésus-Christ, qui est la personne clé. Et là, il montre le sang précieux de Christ. Et Pierre va le répéter plusieurs fois dans cette lettre, le sang précieux de Christ. Il nous a fait naître à travers sa résurrection. C'est le message fondamental de Pierre. Acte 2, la résurrection qui éclate. La mort du Seigneur semblait sonner la fin. En fait, le chaos, la mort du Seigneur sans la résurrection, c'est le chaos. Hein. C'est la fin, c'est la fin de l'humanité, la fin de l'univers. Mais la résurrection de Christ, c'est la victoire. Jésus-Christ se relève de la mort et peut sauver tous ceux qui s'approchent de lui. Il peut le faire et il va le faire. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. En fait, Dieu a la puissance, le moyen de nous garder, et nous avons une sécurité incroyable, indestructible. Mais c'est ce qui permet à Pierre de dire, « Bien-aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre. » Et est-ce qu'on voit que le mot « étranger » est du coup très 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 lié au mot « appartenance » ? À notre appartenance à ce peuple de Dieu et à Dieu lui-même qui s'est fait ce peuple. Au chapitre 2, on lira aussi que vous qui n'étiez pas un peuple, mais Dieu a fait de vous un peuple par sa bonté. Et du coup, le mot « étranger » est fortement lié. En fait, ce qui nous paraît insupportable, ce sentiment de honte par rapport à être étranger, devient acceptable. Parce que je ne me bats plus pour les mêmes droits. Avant, avoir le respect, l'adhésion des autres, l'adhésion du citoyen de ce monde, était un objectif. Mais il ne l'est plus. Et je me rappelle le premier jour de ma conversion à Jésus-Christ, j'étais pré-ado ou ado, 14 ans, le premier jour, dans la journée, c'était étrange. J'allais faire les mêmes bêtises que la veille, ou le même comportement insolent envers les profs que la veille, j'allais le faire. Et plusieurs fois dans la journée, il y avait ce rappel, mais tu as changé? Alors j'avais pas encore vraiment compris changer à quoi, je me suis tourné vers Dieu, j'ai même pas compris la valeur du sang de Jésus-Christ. Mais oui, mais j'avais changé, en fait j'avais changé de camp, mon appartenance n'était plus la même. Et aujourd'hui, 20 ans après, ou plus que maintenant, je pense. Je me rajeunis. Par exemple, je suis à table avec des collègues et on est en train de tailler un responsable parce qu'il n'est pas là, c'est beaucoup plus facile. Et on sait bien que notre façon de parler est un petit peu exagérée, un petit peu Voilà. Elle est proche de la vérité, mais pas tout à fait. Et en parlant, mais je me rappelle, j'appartiens. Mon appartenance, en fait, j'ai pas besoin d'aller dans leur sens ou comme moi je voudrais faire, parce que c'est pas seulement eux qui m'influencent, c'est aussi moi. Mais en fait, j'ai pas besoin. Mon appartenance change tout. Je n'ai pas besoin. Pour un collégien, être accepté, ben c'est primordial. C'est encore plus primordial que pour moi, par exemple, marié, où j'ai mon cocon. Mais pour un collégien, être accepté, pour la plupart, c'est primordial. Et ce l'était pour moi. Être populaire, et quand j'ai confié ma vie à Jésus-Christ, eh bien cette priorité-là a changé. En fait, elle est même devenue la dernière des priorités, c'est ce qu'un copain m'avait dit. Il m'a félicité, il a dit, mais en fait, maintenant, tu es devenu le gars le plus impopulaire du collège. Donc ça, c'était quelques mois après, je pense que j'étais en troisième. Et aujourd'hui, je me dis, c'est vrai que je ne cherche pas à être populaire. Effectivement. Mais j'ai tendance à chercher à être acceptable, passable. Quelqu'un qui passe. À ne pas être étrange, comme ce que j'ai dit avant, à tout faire pour ne pas être étrange au regard des autres. Et j'ai bien peur que l'idée de cette appartenance à Dieu, par Jésus-Christ, nous donne beaucoup de joie, parce que ça remplit notre cœur, mais on ne prend qu'une partie. Qu'une partie, c'est voilà beaucoup de joie d'appartenir, mais ça ne pèse pas assez dans la balance pour comprendre avec paix que nous sommes, du coup, étrangers. Appartenance, mais du coup, étrangers. Est-ce que je comprends mieux que nous sommes étrangers, passagers sur terre, et que c'est supportable de souffrir pour un temps? Et Pierre va aller un peu plus loin, du coup, dans l'idée, dans d'autres parties, et on va voir ce deuxième point. Nous appartenons à Christ, du coup, nous allons souffrir. Nous appartenons à Christ, du coup, nous allons souffrir. Et pas seulement, réjouissez-vous, une appartenance qui provoque la souffrance. On va lire le chapitre 4, verset 4, verset 1, jusqu'au verset 4. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Là, il y aurait des explications à donner que je ne vais pas donner là aujourd'hui. Afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans le désordre, dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Jusqu'ici. Puisque Christ a souffert, armez-vous de la même pensée. Et 5 fois dans cette lettre, Pierre cite Jésus-Christ, alors non pas seulement comme celui qui est le sacrifice et comme sacrifice pour nous, mais aussi, il cite 5 fois Jésus-Christ comme exemple, comme modèle. Par exemple, un autre, chapitre 2, verset 21, parce que Christ a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc même comme modèle à suivre, pour suivre ses traces. Christ aussi a souffert, et donc, vous aussi. Et pourquoi Pierre parle d'un exemple à suivre? Eh bien, quand Pierre parle de Christ comme un exemple, effectivement, c'est pas un exemple parmi d'autres. C'est pas Jean-Baptiste a souffert et du coup souffrait comme lui, Isaïe, etc. Non, c'est pas le même objectif, c'est pas la même intention de citer Christ comme modèle. Premièrement, venez à lui. Parce que lui, la souffrance qu'il a portée, la souffrance qu'il a endurée, eh bien, a comme objectif le salut de l'humanité, de vos âmes. Ses souffrances étaient salutaires pour les autres, donc venez à lui. En fait, lui, il a souffert dans cette idée-là mes souffrances ne sont pas inutiles, elles accomplissent le projet de Dieu. Donc venez à lui. Et deuxièmement, eh bien qu'on imprime cette appartenance à Jésus-Christ. Comme lui, vous allez souffrir. Vous lui appartenez ? Eh bien, c'est lui qui l'a dit. Les disciples, le maître a souffert, les disciples vont souffrir. Donc, Jésus n'est pas un modèle parmi d'autres, il est le maître qui imprime l'exemple. Et c'est impressionnant d'avoir justement un maître qui ne dit pas seulement ce qu'il faut faire, mais qui le fait et qui l'a réalisé. Et puis, il est le modèle, il imprime l'exemple de cette souffrance. Et puis pas que, à cause de Christ. Alors on va lire le verset 12 jusqu'au verset 14 du chapitre 4. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. Ça, c'est ce qu'on a lu avant. La suite. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Jusque-là. Ne soyez pas surpris. Ce qui vous arrive n'est pas étonnant, mais au contraire, réjouissez-vous de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. Se réjouir parce qu'il donne, d'accord, on est d'accord. Se réjouir à cause de son salut, on est d'accord. Et régulièrement, on se réjouit ensemble, on fête Dieu à cause de son salut. Se réjouir à cause de la gloire qui sera dévoilée, d'accord. Mais se réjouir parce que nous pouvons souffrir avec lui, d'accord ? Point d'interrogation. Et Paul dit la même chose, et c'est ce qu'on a chanté avant. Et il le dit aussi dans une autre partie de la lettre de Philippiens. Il dit, en effet, il vous a été fait grâce, d'abord, non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. C'est au chapitre 1, verset 29 de Philippiens. Pour Pierre, pour Paul, cette idée d'appartenance va loin et elle est logique en fait. C'est pour ça que je disais avant, régulièrement on retient cette première partie, c'est te connaître, il n'y a rien de meilleur. Et cette deuxième partie, on ne sait pas trop quoi en faire. Et souffrir et communier avec ta souffrance, on ne sait pas trop quoi en faire. Est-ce que souffrir pour la cause de Jésus-Christ nous réjouit? Est-ce qu'on est engagé pour souffrir pour la cause de Jésus-Christ? Déterminé. C'est-à-dire que tellement obstiné de le suivre et de s'attacher à lui, de s'attacher à ce berger-là, à ce maître-là, à ce messie-là, ce seigneur, quitte à en souffrir. Et là maintenant, on va préciser un peu les choses et essayer de voir un peu plus par rapport à notre contexte et continuer à voir avec... Parce que plusieurs vont me dire, mais Étienne, on n'est pas dans ce contexte, hein. On est dans un contexte de tolérance. Du coup, on est bon. Continuons à lire et on va essayer de préciser un peu plus les choses. Alors, tout de suite après ce dont on vient lire, il y a le verset 15-16, que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal et pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Voilà de nouveau l'idée de la honte, qu'il n'en ait pas honte. Forcément, je fais une parenthèse, excusez-moi. Quand on prie pour les chrétiens de persécutés, réellement persécutés dans notre monde, parfois on peut avoir une fausse idée, le fait que courageusement, ils nous montrent, en fait, ils nous enseignent dans leur foi, et on oublie certainement souvent que la première réaction de la souffrance, c'est la honte, c'est le fait que c'est pas normal. Et là aussi, là, de nouveau, ils répètent, mais qu'il n'en ait pas honte, mais que personne parmi vous n'ait à souffrir pour autre chose que ça, c'est-à-dire qu'il ait à souffrir par des paroles légères, par du manque d'amour. Combien de fois on peut, parce qu'on est chrétien et parce qu'on est détaché, parce qu'on veut pas se, on veut pas vraiment s'engager avec les autres. Combien de fois on peut juste être superficiel? On peut juste être, insultant dans notre manière d'être. Juste passif. Vous voyez? Et en fait, Pierre ne dit pas, faites tout pour que cette souffrance soit vraiment là. L'objectif n'est pas de souffrir. C'est pas un but en soi. L'objectif n'est pas de souffrir pour Christ en étant persécuté, de s'arranger pour souffrir. L'objectif est d'être fidèle. Et Pierre dit, mais en fait, ne vous attirez pas des ennuis. Ne cherchez pas des noises là où il n'y a pas de problème. Ou, au contraire, ne cherchez pas des problèmes par votre désinvolture, s'occuper des affaires qui ne vous concernent pas, etc. Mais si c'est parce que il agit en tant que chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Et j'aimerais encore insister sur cette idée avec une autre partie de la lettre de Pierre. Au chapitre 2, verset 12, ça va encore préciser, et on va voir un... ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que même là où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Là où il interviendra. Et on pourrait se dire justement que parce que je suis chrétien et parce que je risque d'être persécuté, je me mets dans une coquille. Je me mets en mode autodéfense. Si on m'attaque, paf, il y a la réaction parce que je sais que il y a peut-être un contexte où on va me chercher les poux. Et là, Pierre, il dit pas ça, il dit ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. Soumettez-vous aux autorités. Ça c'est le passage qui suit. Celles qui même risquent de vous faire du mal. Pratiquez le bien. Soumettez-vous à vos maîtres. Et l'idée, c'est plutôt, arrosez de bonté ceux qui sont autour de vous. Pour que quoi? Mais pour que un jour ils rendent gloire à Dieu pour ceux qui voient et que eux aussi se tournent vers ce Dieu qui change la conduite. Donc le but n'est pas du tout de se mettre en autodéfense, mais plutôt d'arroser de bonté ceux qui sont autour de nous. La suite, du coup, verset 18, chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. Là aussi, précisons un petit peu par rapport à notre contexte. Peut-être quelques-uns d'entre vous ont un métier difficile, et d'autres pas forcément. Mais soyons honnêtes, l'idée d'un patron qui serait, ou d'un chef qui serait dur, injuste, voire pervers, soyons honnêtes, ça nous paraît insupportable. D'ailleurs, nous avons en France des lois qui nous protègent quelque chose qui s'appelle de l'harcèlement. Quand c'est dur au travail, à la fac, dans ma promo, dans l'école, il y a possibilité beaucoup plus que ce qu'on voit ici, serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. Il y a une plus grande possibilité de changer de situation. Et ce n'est pas un mal en soi de changer de situation. Mais réfléchissons un petit peu plus. Est-ce que c'est pas dans cette situation où je suis, où c'est plus difficile, où il y a de la contrainte, ou même, je suis pas forcément accusé à cause de ma foi, mais c'est peut-être parce qu'à cause d'un comportement où juste votre tête ne revient pas à votre chef. Vous savez, souvent c'est beaucoup plus subtil. Et même dans les chrétiens où ils sont clairement persécutés, souvent c'est plus subtil que je veux te faire du mal parce que tu es chrétien. Et dans cette situation, est-ce que c'est pas l'occasion de bénir, d'arroser de bonté ceux qui sont autour de nous, même celui qui n'a pas des bonnes intentions. Est-ce que c'est pas une occasion pour que Dieu soit glorifié? Mais si dans la balance, d'un côté, bien-être, parce que bien-être, c'est vraiment à la mode, si bien-être pèse beaucoup plus que appartenance, du coup, j'en veux pas ça. Je vais plutôt me tourner tout de suite vers changement des situations et changement de recours à nos lois. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le logiciel a peut-être besoin d'être changé. Appartenance, quand on est chrétien, quand on appartient à Christ, pèse beaucoup plus que bien-être, qui en fait, dans notre contexte, une idolâtrie. La recherche absolue de bien-être est une idolâtrie. C'est une autre idole. Je ne veux pas souffrir. Et en plus, je veux que ma situation soit idéale. Oui, c'est une idolâtrie. Donc, est-ce que notre appartenance pèse beaucoup plus que notre bien-être? Je conclue. On a vu deux aspects de cette souffrance, enfin de cette l'appartenance par rapport à la souffrance. La première qui était cette appartenance est notre baume et notre réconfort et notre courage dans le contexte de souffrance. Et le deuxième point qui est un peu l'inverse, mais en fait vous appartenez à Christ, c'est logique. Vous allez souffrir d'une manière ou d'une autre, mais ne cherchez pas à souffrir. Ne cherchez pas des problèmes là où il n'y a pas de problème. Soyez fidèles. Cherchez de tout votre cœur à être fidèle envers votre Seigneur. Il est votre Seigneur. Le mot Seigneur en lui-même est lourd de sens. Notre appartenance provoque la souffrance d'une manière ou d'une autre. Et question pour nous dans les églises, comment est-ce qu'on peut s'encourager? Comment est-ce qu'on peut s'aider dans ce sens-là? Comment est-ce qu'on peut s'encourager peut-être à ne pas rajouter de la honte là où il n'y a pas de honte? C'est-à-dire quand la Bible dit vraiment, mais là, il n'y a pas de honte. Là, je ne vais pas rajouter de la honte pour mon frère et ma sœur. Aurait honte d'une situation alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir honte. Ou comment nous encourager à ne pas passer notre temps et notre énergie à essayer de passer à droite, à gauche de la souffrance qui est devant nous et à passer notre vie à contourner en fait, mais ce qui est très lié à notre appartenance à Jésus-Christ. Voilà, j'aimerais prier pour terminer. Voilà, que le Seigneur vraiment soit votre plus grand bien, le Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, le connaître, il n'y a rien de meilleur. C'est de loin la chose la meilleure, le connaître, lui, avec les souffrances qui sont liées à sa personne. Notre Seigneur, notre Maître, effectivement, le seul fait de dire Seigneur est lourd de sens, veut dire qu'on accepte ton autorité, qu'on accepte que tu es suffisant, que tu sais ce que tu fais. Tu sais aussi pourquoi ces souffrances durent un temps et pourquoi aussi tu connais aussi notre situation et notre tendance à aller à droite et à gauche du chemin que tu nous indiques. Merci parce que tu nous amènes à l'obéissance et cette obéissance est vraiment bonne. Merci pour notre appartenance à ce Père qui s'est tellement engagé, qui a livré son Fils Jésus-Christ et qui est vivant et qui est Seigneur aujourd'hui, qui est Maître, et qui revient. Et dans cette attente, on veut que tu nous trouves fidèles, pas par notre force, pas par quelque chose qui émanerait de nous, mais rends-nous obéissants vraiment. Amen.